Laudetur Jesus Christus.
Alors que les bombardements entre Russes et Ukrainiens s'intensifient des deux côtés, des délégations des deux belligérants devraient se rencontrer lundi prochain à Istanbul pour une nouvelle séance de pourparlers. Négociations qui doivent être précisées dans un mémorandum publié par la Russie. Nous irons à Moscou au début de ce journal. Les États-Unis restreignent les visas pour les responsables étrangers qui osent trop critiquer les entreprises américaines. Un exemple de plus du protectionnisme version Donald Trump. Dans ce journal également, l'Allemagne qui veut pénaliser les entreprises les plus polluantes, quel que soit leur lieu de production. Et puis dans notre dossier ce matin, alors que la guerre dans la bande de Gaza vient d'entrer dans son 600e jour, témoignage exceptionnel de l'historien spécialiste du Moyen-Orient Jean-Pierre Filiu. Il a pu passer un mois dans la bande de Gaza et en a tiré un livre. Il y dresse un état de destruction et de déshumanisation rarement vu.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. La Russie propose de nouvelles négociations directes avec l'Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est dit prêt à présenter un mémorandum qui détaille les conditions pour un accord de paix. Des négociations qui doivent se tenir une nouvelle fois en Turquie, à Istanbul. Mais les Ukrainiens veulent en connaître le contenu avant d'envoyer une nouvelle délégation. On fait le point avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui a annoncé ce nouveau round de négociations entre Moscou et Kiev, non sans remercier la Turquie, les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour leur soutien dans ce processus. Une façon aussi de calmer l'impatience de Donald Trump. En début de semaine, le président américain avait en effet traité Vladimir Poutine de fou à cause de l'intensité des récents bombardements russes en territoire ukrainien. Lundi, lors de cette deuxième séance de pourparlers directs, Moscou présentera un mémorandum exposant les éléments qui, pour la Russie, devrait permettre de trouver une solution durable au conflit qui l'oppose à l'Ukraine depuis plus de 3 ans. Son contenu n'a pas été divulgué, mais il y a fort à parier qu'il contient au minimum des annexions de territoires et la neutralisation de l'Ukraine dans le but de redéfinir une architecture de sécurité européenne qui préserve ce que Moscou considère relever de ses intérêts vitaux ou existentiels. Mi-mai, après moins de 2 heures de pourparlers, les parties avaient convenu d'un échange de prisonniers selon la formule 1000 contre 1000 qui s'est matérialisé le week-end dernier en dépit d'importants bombardements des deux côtés. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio invite son homologue russe à négocier de bonne foi avec l'Ukraine. Kiev a plaidé de son côté pour une rencontre tripartite entre Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais le maître du Kremlin semble très peu enclin à participer à une telle rencontre. Hier, à l'issue de l'audience générale, le pape Léon XIV avait réitéré ses prières pour l'Ukraine et son peuple, frappé par de nouvelles attaques graves contre les civils et les infrastructures, avait-il rappelé. Une prière pour l'Ukraine qui reste nécessaire, appelle le nonce apostolique à Kiev, Mgr Koulbokas, qui salue le dernier échange de prisonniers. Cela montre que le dialogue est utile, au moins d'un point de vue humanitaire, explique-t-il dans un entretien à retrouver sur notre site vaticannews.va. La guerre commerciale de Donald Trump sévèrement remise en question hier soir. Un tribunal fédéral a en effet suspendu les droits de douane annoncés en grande pompe le 2 avril dernier, qualifié par la Maison-Blanche comme le jour de la libération. Le président américain avait instauré des taxes dites réciproques d'au moins 10% sur toutes les importations aux États-Unis. La Maison-Blanche a fait appel de cette décision judiciaire. L'administration américaine qui met le frein sur la délivrance des visas envers les responsables étrangers qui censureraient des entreprises made in USA. Une nouvelle politique de restriction de visas qui témoigne du bras de fer dans lequel Washington s'est lancé avec ses concurrents. Le gouvernement américain a invoqué plusieurs raisons. La correspondance aux États-Unis d'Edouard Maille.
Pour les visas des responsables étrangers, l'annonce par le chef de la diplomatie Marco Rubio permet de restreindre les visas pour les responsables qui, aux yeux de Washington, censureraient certaines entreprises américaines. Aucun responsable ou pays n'a été nommé directement, mais il est facile de penser aux restrictions voulues par certains pays pour contrôler ou limiter le réseau social X, propriété d'Elon Musk, proche de Donald Trump. Le levier de la délivrance des visas a aussi été utilisé cette semaine contre les étudiants étrangers. Depuis mardi, les rendez-vous pour ces procédures sont suspendus. Le ministère de l'Intérieur dit être dans l'attente de nouvelles consignes de sécurité. L'objectif serait de passer au peigne fin les réseaux sociaux des demandeurs de visa et s'assurer qu'ils n'ont pas un profil de délinquant ou de criminel. Mais de nombreux experts y voient un acte de plus pour lutter, aux yeux de Washington, contre l'antisémitisme dans les campus. Donald Trump a promis d'y mettre fin, antisémitisme que le gouvernement américain lie directement aux manifestations de soutien aux Palestiniens. Ces derniers mois, des visas d'étudiants ayant pris part à ce mouvement ont été révoqués. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Les États-Unis où le froid semble s'installer entre Donald Trump et Elon Musk. Pour la première fois, celui-ci a publiquement critiqué son allié, lui reprochant de creuser le déficit budgétaire du pays. Il se dit déçu par le président. Elon Musk, qui s'est mis en retrait du Dodge, cette commission pour l'efficacité gouvernementale qu'il présidait pour tailler dans les dépenses publiques. En Allemagne, un tribunal a rendu une décision historique hier. Il considère que les entreprises productrices d'énergie fossile peuvent être tenu responsable des dommages liés aux émissions de gaz à effet de serre, et cela quel que soit l'endroit où elles produisent. Dans le cas présent, il s'agissait d'une procédure visant l'un des plus gros producteurs mondiaux d'électricité et l'un des plus gros pollueurs au monde, l'énergéticien RWE. Les précisions à Berlin avec Delphine Herbollier.
C'est le combat de David contre Goliath. D'un côté, un agriculteur péruvien, de l'autre, le géant allemand de l'énergie, le groupe RWE. Cet agriculteur a porté plainte devant un tribunal allemand car il accuse RWE d'avoir contribué à la fonte d'un glacier des Andes par sa production d'électricité et d'avoir de manière indirecte placé sa maison sous le risque d'inondation. Et cela, même si RWE n'a pas de centrale électrique au Pérou. Cet agriculteur demandait des indemnisations que le tribunal lui a refusées hier. En revanche, et c'est la grande nouveauté, les mêmes juges ont reconnu le principe selon lequel une entreprise productrice d'électricité pourrait être tenue responsable des émissions de gaz à effet de serre et des préjudices qui lui sont liés partout dans le monde. Cela signifie que ces entreprises pourraient à l'avenir être obligées de prendre des mesures pour empêcher ces mêmes émissions. Pour les associations environnementales, cette décision est historique. Elle devrait donner un coup de pouce aux nombreuses actions de justice en cours à travers le monde contre des entreprises productrices d'énergie fossile. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a ouvert hier de nouvelles assises pour le dialogue national, les cinquièmes du nom, ambition affichée, consolider la démocratie dans le pays, mais aussi réformer le système politique dans un contexte tendu avec les partis d'opposition. Ces assises nationales rassemblent également des membres de la société civile, des syndicats, des experts ou des universitaires. Elles se dérouleront jusqu'au 4 juin. Madagascar souhaite dérouler le tapis rouge aux investissements des Émirats arabes unis. Pendant deux jours cette semaine, s'est tenue la première édition du Madagascar Dubai Business Forum. L'objectif affiché était clair, créer de nouveaux partenariats. Les investisseurs émiratis et leurs forces de frappe financière intéressent particulièrement le gouvernement dans la grande île. Les précisions de notre correspondante à Antananarive, Sarah Tetou.
Le chef de l'État, Ondjad Zouen, a emmené avec lui une délégation de 8 ministres et une soixantaine de chefs d'entreprise de l'île, espérant ainsi séduire de nouveaux partenaires dans un contexte de baisse des financements des bailleurs internationaux traditionnels. D'après le gouvernement, étaient particulièrement ciblés les secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et les ressources naturelles. Dans la foulée du forum, le président malgache a annoncé la signature d'un partenariat avec la société émiratie Masdar pour l'installation de 150 MW d'énergie solaire. Où, quand, comment, aucune information n'a pour l'instant filtré. Depuis un an, les autorités émiraties ont multiplié les signaux de rapprochement avec Madagascar. Ouverture d'une ambassade, création d'une ligne directe entre Antananarivo et Dubaï. Les Émirats arabes unis ont aussi annoncé en janvier un ambitieux programme d'investissement de 10 milliards de dollars, financé par le fonds d'Abu Dhabi, de quoi consolider leur présence dans le sud-ouest de l'océan Indien, région convoitée pour son implantation stratégique et ses ressources naturelles. L'or malgache et les terres fertiles répondent aux besoins croissants de ces pays du Golfe. À Antananarivo, Sarah Teto pour Radio Vatican.
Un entrepôt du programme alimentaire mondial pillé dans la bande de Gaza par des milliers de Palestiniens. C'est la scène vue hier au lendemain d'une distribution d'aide chaotique dans l'enclave dévastée par la guerre. Israël qui tente de privatiser cette aide via une fondation créée de toutes pièces. Mais les agences onusiennes et les ONG qui connaissent Gaza déplorent le manque de connaissance de la réalité sur place. À Gaza, où le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé hier la mort de Mohamed Sinwar, le chef présumé du Hamas dans l'enclave. La bande de Gaza où la guerre est entrée dans son 600e jour et aucune lueur d'espoir ne semble poindre à l'horizon. Hier soir à Tel Aviv, des milliers de personnes se sont rassemblées en soutien aux otages, toujours prisonniers à Gaza. Depuis le massacre du 7 octobre 2023, la répression israélienne qui visait le Hamas s'est transformée en punition collective de tout un peuple. Le conflit en cours a provoqué une destruction rarement vue sur d'autres théâtres de guerre. C'est ce qu'a constaté l'historien spécialiste du Moyen-Orient, Jean-Pierre Filieu. Entre les mois de décembre et de janvier dernier, il a pu exceptionnellement séjourner à Gaza en accompagnant une équipe de Médecins sans frontières. Jean-Pierre Filieu en est revenu avec un récit stupéfiant, un historien à Gaza qui vient de paraître aux éditions Les Arènes. Récit qui ne parle pas seulement de destruction matérielle, mais également de toute tentative de penser l'avenir. Jean-Pierre Filieu qui est notre invité ce matin.
Sur place, tout prend une autre dimension et je ne pouvais pas imaginer, malgré toutes les informations que j'avais accumulées, toute la documentation que j'avais constituée, tous les souvenirs que j'avais, l'ampleur de cette catastrophe. J'ai mis plusieurs jours à simplement reprendre mes repères dans une réalité qui était complètement bouleversée par la guerre, à commencer par le paysage lui-même, vu qu'il n'y a pratiquement plus de villes, et que, ben, par exemple, quand il y a des collines, ce sont des ruines de décombres et pas du tout des éléments de la nature.
Vous évoquez ces centaines de milliers de réfugiés qui vivent dans des tentes de fortune et vous dites, je vous cite, « Pourtant par une espèce de miracle encore et toujours renouvelé, ces femmes, ces hommes ont beau être contraints de s'incliner pour pénétrer dans la tente familiale. Ces femmes et hommes se présentent au monde matin après matin le plus soigné possible, dignes et droits. » C'est aussi quelque chose qui vous a frappé, c'est que malgré l'océan de souffrance et de destruction, il y reste cette dignité chez les gens.
Cette quête de dignité, c'est ce qui fait tenir encore les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza debout. Ils ne veulent pas céder, ils ne veulent pas s'effondrer, même si le désespoir les submerge plusieurs fois par jour. Et on saisit des regards, des mines qui en disent long sur l'état d'absolue noirceur. Et donc, malgré cela, il faut essayer de tenir debout. Et c'est à la fois cette dignité qui m'a beaucoup impressionné et puis cette pudeur.
Quand vous évoquez la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza, vous dites « Je comprends mieux pourquoi Israël interdit à la presse internationale l'accès à une scène aussi bouleversante ». Là, vous évoquez évidemment l'état de destruction de cette ville que vous aviez connue par le passé, qui était une ville debout, qui était une ville vivante, avec le grouillement de la vie, malgré les difficultés, malgré les sièges précédents.
Effectivement, et puis bon, l'historien que je suis sait que l'histoire de Khan Younes commence au XIVe siècle. C'était un carrefour commercial, un caravansérail, un khan extrêmement actif. Et bon, j'ai fréquenté quelques théâtres de guerre, Afghanistan, Bosnie, Somalie, Irak, Syrie. Je n'ai jamais rien vu de comparable parce que ça n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tremblement de terre. C'est l'homme qui a fait cette destruction de façon à ne plus rien laisser debout, plus rien laisser de vivable. Et c'est absolument bouleversant.
On empêche aujourd'hui d'envisager l'avenir. C'est une impasse que vous avez mesurée et qui est d'autant plus criante quand on est sur place.
Bien sûr, même si ça fait de longues années que je mettais en garde contre cette impasse, mais il faut aussi rouvrir Gaza au monde et que le monde revienne à Gaza. Et je mets en garde contre un danger encore plus grand que je ne percevais pas tant que je n'étais pas sur place, c'est que Gaza est une forme de laboratoire d'un monde qui serait totalement débarrassé de toutes les normes de droit international imparfaites, inabouties, mais qui régissent le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit bien cette privatisation de l'aide humanitaire, ce recours systématique aux mercenaires de sécurité, cette vie ou mort qui dépendent d'une intelligence artificielle qui va décider que la personne est suspecte ou ne l'est pas. Ça n'est pas une dystopie, c'est la réalité à Gaza. Et si à Gaza, on n'arrête pas ce scandale absolu, eh bien, il faut craindre que le laboratoire de Gaza ait produit des monstres qui se répliqueront ailleurs.
L'universitaire Jean-Pierre Filiu, auteur du livre « Un historien à Gaza » qui vient de paraître aux éditions Les Arènes, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h heure de Rome pour un nouveau journal. D'ici là, une seule adresse, vaticannews.va. Je vous souhaite une excellente journée.